Vous écoutez, on lit pour vous.
Le Congo aux prises avec une mystérieuse maladie mortelle. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 7 décembre 2024 dans la presse. Près de 400 personnes ont attrapé une mystérieuse maladie dans une région reculée en République démocratique du Congo, RDC. Près d'une centaine sont mortes, en majorité des enfants. Doit-on s'inquiéter? Que se passe-t-il? Au début de décembre 2024, le gouvernement de la RDC a su que des centaines de personnes avaient contracté une mystérieuse maladie respiratoire près de Kasongo-Lunda, une ville dans le sud-ouest du pays. Peu d'informations étaient disponibles, la région étant isolée et mal desservie d'un point de vue médical. Les premières dépêches de l'Associated Press et de Reuters faisaient état de plus de 160 morts et près de 400 cas, et d'une prédominance de femmes et d'enfants parmi les patients. Le jeudi 5 décembre 2024, les Centres de contrôle des maladies de l'Afrique, CDC Afrique, ont appelé la maladie X. Et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a fait état de 394 cas et 30 morts confirmés, avec 44 autres morts potentiellement reliées à cette maladie. Plus de la moitié des morts sont des enfants de moins de 5 ans. Les cas ont commencé à la mi-octobre 2024, indique à la presse Tariq Jazarevic, porte-parole de l'OMS. Que font les autorités? Des équipes congolaises et de l'OMS ont été dépêchées sur place. Les résultats des premières analyses devraient être disponibles bientôt. Les équipes vont faire des tests de grippe parce que c'est le pic de la saison grippale dans la région, de COVID-19, de malaria et de rougeole, entre autres maladies, indique M. Jasarevic. Les tests sont faits dans des laboratoires à Kikwit, dans le centre du pays. Quelle peut être la maladie? Il est fort probable qu'il s'agisse d'une maladie pour laquelle il existe un vaccin de petite enfance comme la rougeole. Il y a eu une grande interruption de la vaccination à la petite enfance durant la pandémie, explique Amira Roes, épidémiologiste de l'Université George Mason, près de Washington, qui était jusqu'à récemment responsable de la région au Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, du gouvernement américain. Ça pourrait expliquer que les enfants en bas âge soient plus touchés. Et si c'est une maladie moins fréquente à cause de la vaccination, ça peut expliquer qu'elle ne soit pas reconnue par le personnel local. Le Congo a été fortement touché par la Mpox au cours des dernières années, avec 47 000 cas et 1000 morts. Mais si c'était cette maladie, des éruptions cutanées seraient mentionnées dans les symptômes, selon la docteure Roes. L'Ebola, une fièvre hémorragique ayant touché la RDC à plusieurs reprises depuis l'an 2000, est aussi mentionnée. Cédric Yansouni, directeur du centre G.D. McLean pour la médecine tropicale de l'Université McGill, mentionne que récemment, dans l'est de la RDC, une explosion de salmonelle a fait des dizaines de morts. Avec les quelques symptômes rapportés, sans savoir si d'autres symptômes ne sont pas mentionnés, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Est-ce que cela peut devenir une pandémie? Ces alertes de maladies mystérieuses dans des régions isolées de l'Afrique sont de plus en plus fréquentes parce que les autorités sanitaires mondiales ont fait beaucoup d'efforts pour identifier plus rapidement les pandémies potentielles, explique la docteure Roes. Avant, on entendait parler de certaines éclosions de maladies des mois après qu'elles furent survenues. Elles étaient terminées, on n'avait pas moyen de savoir ce qui s'était passé. Maintenant, on le sait beaucoup plus rapidement, notamment avec les télécommunications. Mais les communications physiques sont aussi plus faciles, ce qui augmente le potentiel pandémique des nouvelles maladies. On veut savoir avant tout s'il s'agit d'une maladie animale qui est maintenant transmissible d'humain à humain, indique le docteur Roes. S'il s'agit d'une nouvelle fièvre hémorragique comme l'Ebola, est-ce qu'elle pourrait devenir une pandémie? Pas si, comme l'Ebola, elle est transmissible par le toucher de liquide contaminé plutôt que par voie aérienne, selon le docteur Yansouni. Le fait que les enfants sont plus touchés est-il préoccupant? Oui, parce qu'ils sont plus vulnérables, mais pas dans un contexte de potentiel pandémique, estime le docteur Yansouni. La région où cela est survenu est-elle une source de nouvelles maladies? Elle est à tout le moins touchée par des éclosions d'Ebola et de Mpox. Et elle est située juste à côté d'une région angolaise où il y a eu des éclosions du virus Marburg, cousin de l'Ebola, note le docteur Yansouni. En Angola, de l'autre côté de la frontière, il y a aussi très peu de personnel de santé, observe la docteur Roes. On ne sait pas exactement ce qui s'y passe. Les informations sont rares et mettent du temps à circuler. En savoir plus. Source OMS. 50% proportion des enfants de la RDC qui ont reçu tous leurs vaccins de petite enfance en 2020. 41% proportion des enfants de la RDC qui ont reçu tous leurs vaccins de petite enfance en 2021. 45% proportion des enfants de la RDC qui ont reçu tous leurs vaccins de petite enfance en 2023. C'était « Le Congo aux prises avec une mystérieuse maladie mortelle », un texte de Mathieu Perrault, paru le 7 décembre 2024 dans La Presse.
Pillez-vous les uns les autres. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 9 décembre 2024 dans Le Devoir. Il est difficile de deviner, sans possibilité de les jauger vraiment, la taille des aliments cachés sous leurs emballages, tant ceux-ci se veulent confondants. Pensez aux sacs de chips. De l'air, de plus en plus d'air. Cela est courant aussi pour bien d'autres produits. Sous des emballages surdimensionnés, le vide donne la main au plein. Les produits rétrécissent, c'est la réduflation, tout en étant vendu le même prix. Une façon de donner l'illusion que l'inflation ne vous avale pas tout rond. En Chine, deuxième pays parmi les plus peuplés du monde, les femmes s'indignent, ces derniers temps, devant les désagréments que leur causent les fabricants de serviettes hygiéniques. Une enquête conduite auprès de 20 marques différentes indique que 90% des serviettes hygiéniques ne sont pas conformes à leurs spécifications. Elles mesurent toujours moins que ce qui était annoncé. En rognant sur les matériaux utilisés, les surfaces de protection des serviettes hygiéniques sont systématiquement inadéquates, avec les résultats qu'on peut imaginer. Et c'est sans parler du fait que les niveaux d'acidité de nombre de ces produits s'avèrent impropres à l'hygiène intime. Au mieux, comprend-on, la qualité de ces produits est défectueuse. Au pire, les entreprises qui les produisent abusent sans gêne de la moitié d'une population. En Chine, les femmes sont au nombre de 690 millions. Arracher quelques centimètres de matière à chacune, multiplier les effets de cette économie, puis imaginer les profits. Cette histoire de serviettes hygiéniques constitue-t-elle une affaire politique? Elle illustre en tout cas une des formes que prend l'exploitation. Elle montre aussi que les femmes, au mépris du principe de l'égalité, continuent d'être des proies de choix pour des abus éhontés. Que même les Chinoises en viennent à dénoncer l'exploitation du cycle menstruel est intéressant. Il n'y a pas si longtemps, cette réalité des règles était tout simplement cachée. Ma grand-mère, je me souviens, n'osait pas nommer la chose autrement qu'en disant d'une femme qu'elle était « indisposée ». On entendait aussi, en d'autres familles, que Madame Rose est en visite. Au Canada, il a fallu attendre 2015 pour que la taxe fédérale, TPS, sur les coupes menstruelles, les serviettes, tampons et ceintures hygiéniques soit abolie. De son côté, Québec promettait de maintenir sa taxe, TVQ, sur ses produits essentiels, mais la province a fini, la même année, par y renoncer. Depuis, un mouvement croissant a vu le jour pour que soient fournis des produits d'hygiène féminine gratuits, notamment sur les campus et dans les écoles. Pourquoi, toutes ces années, a-t-il fallu taxer la moitié de la population en raison de sa condition ontologique? En fin d'année 2023, le vol d'un entrepôt de denrées et de produits pour un centre d'aide à Longueuil, à la veille de Noël, avait suscité des condamnations tous azimuts de la part de gens qui, eux, à l'évidence, ne manquaient de rien. Les images de la scène du pillage montraient, bien en vue, des cartons éventrés d'emballages de serviettes hygiéniques. Elles semblaient avoir suscité de l'intérêt autant que les denrées. Un nouveau vol d'envergure a été opéré cette année dans le même quartier, à peu près dans les mêmes circonstances. J'ignore si, cette fois, des serviettes hygiéniques se trouvaient parmi les biens emportés. Même cri en tout cas pour dénoncer le fait que des gens pillent des ressources de secours alors que les centres d'aide sont plus que jamais sous pression. Piller, n'est-ce pas pourtant la façon de procéder qui nous est présentée comme la voie royale de la réussite? Tandis que les efforts pour promouvoir l'égalité sont volontiers mis de côté au seul profit d'une expansion du domaine de la charité, la grande prédation se porte mieux que jamais. Quand fera-t-on quelque chose de conséquent pour favoriser une justice sociale digne de ce nom? Enlever la TPS temporairement sur certains produits insignifiants, pour 2 mois seulement, tout en dégarnissant, se faisant les coffres de l'État, a quelque chose d'outrageant pour la raison. L'État pratique ainsi un bien curieux type de secours aux noyés. Il laisse les puissants vous couler jusqu'au cou, et lorsque vous avez bu la tasse, il vous annonce avoir l'honneur de vous remonter à la surface pour vous sécher un peu avant de vous rejeter par-dessus bord, afin que ceux qui entendent vous darder puissent continuer de le faire. La question de la répartition plus juste des salaires demeure entière. À partir de quel moment abuse-t-on de la société? Elon Musk, le grand patron de Tesla, éprouve du mal, ces derniers temps, à se faire accorder un salaire qui ne tient pas exactement des bas-fonds de la misère. Une juge du Delaware a de nouveau rejeté, la semaine dernière, ses émoluments. Les dirigeants de sa compagnie, voyez-vous, voudraient lui accorder 55,8 milliards de dollars. Devant les protestations, la juge Kathleen McCormick a repoussé une première fois cette enveloppe en janvier 2024, dénonçant son attribution par un comité dont les membres sont tous des proches de Musk. Le milliardaire voit là une atteinte à ses droits et libertés. Voilà un autre signe, selon lui, d'un effondrement de la grandeur de la civilisation dont il se croit un parangon. Les nouveaux rois comme lui semblent oublier que, même sur les plus beaux trônes du monde, on n'est toujours assis que sur son cul. Pensez à un simple salarié. S'il est rémunéré au taux horaire minimum, soit $15.75 de l'heure, il devrait travailler un peu plus de 569 000 années, autrement dit l'éternité, pour accumuler une seule annuité d'Elon Musk. L'éternité, comme chacun le sait, c'est long, surtout vers la fin. Quand certains auront fini de nous emberlificoter avec des considérations vaseuses sur les woke et autres bonhommes 7 heures, au nom d'une guerre culturelle qui détourne l'attention de la guerre des classes, il faudrait bien se demander qui, en vérité, s'affaire à saigner nos sociétés. C'était Pillez-vous les uns les autres, un texte de Jean-François Nadeau paru le 9 décembre 2024 dans Le Devoir.
Notre-Dame de Paris rouvre enfin aux visiteurs. un texte de Raphaël Miro, paru le 8 décembre 2024 dans La Presse. Paris. Ni la grisaille de l'automne parisien, ni le large périmètre de sécurité pour la réouverture n'auront réussi à décourager les touristes venus voir la vieille dame de l'île de la Cité. Une semaine avant la réouverture de la cathédrale, une petite foule se tient derrière les clôtures pour admirer la façade de Notre-Dame de Paris, comme chaque jour depuis le 15 avril 2019. 5 ans, 7 mois et 22 jours. C'est le temps qu'il aura fallu à Notre-Dame pour ouvrir ses portes après le terrible incendie qui a failli la mettre à terre cette nuit-là. Depuis le 8 décembre 2024, il est possible pour les touristes de revenir dans la cathédrale à condition de s'inscrire à l'avance sur un site. Les Français ont déjà pu entrevoir l'intérieur de la cathédrale lors de la visite retransmise en direct d'Emmanuel Macron le 29 novembre dernier. Et surprise, même si tout a été restauré à l'identique, l'atmosphère de la cathédrale est radicalement changée par rapport à 2019. Les pierres blondes, des murs, assombris pendant des décennies par la fumée des cierges, ont retrouvé leur couleur originelle grâce à un nettoyage minutieux. Les fresques, les parquets et les vitraux ont aussi retrouvé leur coloration d'origine, faite de bleu, de vert et de rouge étonnamment vifs. Résultat, Notre-Dame semble aujourd'hui considérablement plus lumineuse qu'avant l'incendie. On aura l'occasion de voir une cathédrale neuve, comme si on avait voyagé au Moyen-Âge, s'amuse Régis, un retraité venu de banlieue voir le chantier après avoir vu les images à la télévision. Pour l'heure, les curieux doivent se contenter de voir la cathédrale de loin. C'est joli, mais évidemment j'aurais préféré voir l'intérieur, explique Yixing Shen, qui, comme de nombreux touristes, pensait pouvoir s'approcher plus près. Pendant le chantier, une estrade en bois a été construite pour permettre de voir par-dessus les hautes clôtures du chantier. Surtout, dans la ruelle jouxtant la cathédrale, une exposition temporaire a été créée pour documenter le colossal processus de reconstruction. Au-dessus des panneaux explicatifs très imagés, qui resteront en place jusqu'à la toute fin des travaux, on peut observer en temps réel les artisans travailler dans les échafaudages et écouter le bourdonnement effréné du chantier. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour les travaux et qui nous posent des questions, explique Raphaël Federspiel, guide bénévole pour l'association CASA, qui propose chaque jour des visites complètement gratuites et très détaillées devant la cathédrale. Bon plan à retenir. Mais évidemment, il y a moins de gens que quand on pouvait visiter à l'intérieur. Certaines journées, personne ne vient nous voir. Le retour des touristes? De l'avis unanime des commerçants du quartier, les aménagements autour de Notre-Dame ne suffisent pas à attirer autant de chalands qu'avant l'incendie. Propriétaire depuis 3 générations de l'une des très nombreuses boutiques de souvenirs entourant la vieille dame, Xavier Goiset s'énerve en évoquant les 5 dernières années. Dès l'été après la fermeture, il n'y avait presque plus personne. Une estrade et des panneaux, vous pensez vraiment que ça attire les touristes? Maugrait-il en rangeant un bazar de bérets multicolores et de petites tours Eiffel. Maintenant, on veut juste tourner la page. L'industrie du tourisme s'attend en tout cas à de bonnes nouvelles. Notre-Dame devrait accueillir de 14 à 15 millions de visiteurs cette année, alors qu'elle était déjà le monument le plus visité en France avec 12 millions de personnes. Et pour la fin de semaine de réouverture, l'Alliance France Tourisme, le regroupement du secteur, s'attend à une hausse des réservations hôtelières à Paris de 5% par rapport à 2023. Les touristes pourraient toutefois être refroidis par une possible fin de la gratuité de Notre-Dame. La ministre de la Culture, Rachida Dati, dit réfléchir à une somme symbolique de 5 euros qui pourrait rapporter la coquette somme de 75 millions par an pour la cathédrale. Mais rien n'est sûr. Le diocèse s'oppose vigoureusement à cette idée, affirmant que la mission d'un lieu sacré est d'accueillir inconditionnellement les visiteurs, croyants ou non. Des travaux jusqu'en 2028. Même après la réouverture, les monte-charges, les bâches et les échelles qui coiffent Notre-Dame ne devraient pas disparaître tout de suite. Les travaux sur l'extérieur de la cathédrale, en particulier sur la toiture et les gargouilles, devraient se poursuivre au moins jusqu'à la fin de 2025. Quant au parvis, il sera réaménagé de 2025 à 2028 pour être complètement végétalisé. Moi, je n'ai jamais vu Notre-Dame sans échafaudage. Il tourne sur le toit, s'amuse Célestin Rakotoniana, qui habite depuis 35 ans dans l'île de la Cité. C'est un vieil édifice. Ils trouveront toujours quelque chose à réparer. En savoir plus? 846 millions d'euros. 1248 millions de dollars. C'est la somme qui a été récoltée pour restaurer Notre-Dame. Il reste encore 140 millions à dépenser pour l'extérieur de la cathédrale. C'était « Notre-Dame de Paris rouvre enfin aux visiteurs », un texte de Raphaël Miro, paru le 8 décembre 2024 dans La Presse.
Le béton cellulaire, un matériau à découvrir, un texte commandité, paru le 2 septembre 2024 dans La Presse. Peu connu de ce côté-ci de l'Atlantique, le béton cellulaire a un grand succès chez nos cousins français. Sur les plateformes Instagram, Pinterest et TikTok, les cloisons et d'autres niches construites en maçonnerie abondent. Zoom sur un matériau léger et résistant dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. Des caractéristiques uniques. Le béton cellulaire est composé d'un mélange de sable, d'eau et de ciment. Ce matériau, mis au point en Allemagne à la fin du 19e siècle, fait partie de la grande famille des bétons légers. Ce qui le rend différent du béton traditionnel, des millions de bulles d'air entrent dans sa recette, lui conférant une grande légèreté, ainsi que des propriétés d'isolation thermique, sans toutefois compromettre sa résistance. En Europe, le béton cellulaire est aussi connu sous les appellations thermopierre ou béton mousse. Il est utilisé en aménagement résidentiel, notamment pour la fabrication d'alcôves, d'arches ou de rangements. On l'emploie aussi à l'extérieur, grâce à son excellente résistance au gel et au dégel. Fait intéressant à souligner, ce matériau a d'ailleurs été utilisé dans la construction de nombreux tronçons du réseau express métropolitain, REM, en milieu marécageux. Un matériau écolo? La fabrication du ciment est réputée polluante en raison des gaz à effet de serre qu'elle produit. Or, étant donné son poids plume, le béton cellulaire, composé à 80% d'air, peut compter sur une fabrication qui s'avère moins énergivore, autant à l'étape de la fabrication qu'à celle du transport. En outre, les principaux déchets liés à sa fabrication peuvent être réutilisés. Frédéric Tremblay, propriétaire d'Atelier B à Montréal, s'est donné pour mission de faire du béton une matière noble. Son entreprise se spécialise dans le béton ciré, plancher, comptoir, panneaux décoratifs et meubles, et réalise des projets d'envergure à l'international. L'Europe et le Japon ont une longueur d'avance en ce qui concerne toutes les possibilités du béton, explique-t-il. Des bétons plus légers et plus denses peuvent se prêter à des usages variés. C'est un produit intéressant en raison de sa durée de vie supérieure. Construire avec le béton cellulaire. Au Québec, pour l'instant, le béton cellulaire est vendu frais. Cela nécessite de fabriquer préalablement un moule, un coffrage, pour y couler le béton selon la forme qu'on veut fabriquer, cloison, banquette, indique Mike Docton, directeur technique pour Montréal et l'Outaouais de l'entreprise Béton Provincial, qui ajoute « Par la suite, le béton peut être poli ou agrémenté d'un enduit selon l'effet voulu. C'est préférable autant d'un point de vue esthétique que pour le confort, car le béton cellulaire présente un aspect rugueux à l'état brut. » En France, les consommateurs peuvent se procurer le béton cellulaire en plaques prêtes à utiliser de différentes épaisseurs qu'il est possible de couper à l'aide d'une scie sauteuse et d'assembler avec du mortier-colle. Le matériau est aussi mis en marché sous différentes formes, cubes, arches, etc. Comme il est populaire et produit en grande quantité, les prix y sont plus attractifs qu'ici. Jolie maçonnerie. Les meubles qui sont faits à partir de béton cellulaire apportent une touche rustique et chaleureuse aux intérieurs. Comme ce béton est léger, il n'est pas nécessaire de renforcer la structure du plancher, ce qui constitue un bel avantage par rapport au béton traditionnel, fait valoir Mike Docton. Parmi les idées intéressantes, mentionnons les banquettes avec niches de rangement pour le hall d'entrée ou le coin repas, les cloisons séparatrices faisant office de bibliothèque, l'habillage d'un foyer avec des étagères où disposer des accessoires déco, les arches, les poutres ou encore les niches décoratives. Les bons usages. Solide comme le roc, le béton cellulaire peut supporter un poids important, mais comme il est friable, il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit pour fabriquer un comptoir à ajouter à l'îlot de la cuisine. Les coups de couteau risqueraient alors de l'abîmer. Cependant, il convient à une utilisation à l'extérieur, ce qui en fait un matériau des plus intéressants pour construire, par exemple, un ensemble de mobilier pour le jardin au style parfaitement unique. C'était « Le béton cellulaire, un matériau à découvrir », un texte commandité paru le 2 septembre 2024 dans la presse.